dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
On se retrouve avec des jeunes militaires qui sont en peur panique, ils sont terrorisés. Le résultat, c'est qu'il y a des mômes qui se font tirer à la mitrailleuse parce qu'ils sortent le téléphone portable de leur poche. C'est presque un état de psychose quand on regarde bien. Hein.
Et effectivement, nous, tous les gens qu'on a rencontrés, on n'a jamais entendu de propos haineux, jamais. Simplement, on veut les mêmes droits pour tous.
Parce que les hommes israéliens ne sont pas plus mauvais que n'importe quel citoyen de la Terre. Je crois que c'est ça qu'il faut bien dire. Hein. C'est une question de politique, c'est une question de nos politiques qui organisent ça. Mais le peuple, lui, simplement qu'il est dans la méconnaissance.
Que c'est chaque fois la Nakba, c'est chaque fois la spoliation des territoires, c'est chaque fois l'effacement de l'histoire. C'est chaque fois les humiliations au checkpoint, c'est chaque fois les fouilles au corps, c'est à chaque fois le mépris, c'est la peur pour les Palestiniens.
À l'occasion de la diffusion à Millau ce 26 novembre du film « Le char et l'olivier » en présence du réalisateur Roland Nurier,
dissonance tend ses micros à Dominique et Yves Perrault.
En 2016, ils sont partis en Cisjordanie pour entendre les Palestiniens et vivre à leur côté durant quelques semaines. À leur retour, ils ont tenu à témoigner de leur résistance face aux humiliations quotidiennes qu'ils vivent. Ce furent exposition, écriture d'un livre et aujourd'hui émission de radio.
Dissonance tend aussi son micro à Ziad Medouk, habitante de Gaza, qui, grâce à la lecture de Barbara, nous apporte son témoignage sur le plus grand camp de concentration au monde, qu'est la bande de Gaza. Nous entendrons aussi son poème, lu par Salwa Tahiri.
1897, c'est le premier congrès sioniste mondial, où Theodor Herzl fait passer l'idée de la construction d'un état, d'un foyer d'ailleurs à l'époque, national juif en Palestine.
Ce colonialisme-là avait comme projet de remplacer les Palestiniens par une population venue d'ailleurs, et en particulier venue d'Europe.
À l'arrivée de Hitler au pouvoir, va envoyer des dizaines de milliers de Juifs allemands en Palestine, parce que le reste du monde leur est fermé.
C'est un remplacement, c'est un gigantesque remplacement d'un peuple.
Ben Gourion déclare unilatéralement la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Sur 55% de la Palestine mandataire. Les Nations Unies votent la résolution exigeant le retrait israélien des territoires conquis en juin 1967. Les Palestiniens attendent toujours son application.
Lutter contre une occupation, contre le colonialisme, n'est pas seulement un droit, c'est écrit noir sur blanc, c'est un devoir.
Je me sens très engagée dans le problème. C'est un cas unique et en toute illégalité.
Les Palestiniens ne baisseront pas les bras. Ils n'ont pas baissé les bras depuis 70 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils baisseront les bras.
It is very dangerous, not for me, but for all the Palestinian children.
I want to tell the French people that we are as the Palestinians, we love the life.
Un jour, je suis sûre et certain, la justice sera rendue au peuple palestinien avec la reconnaissance de leurs droits. Voilà. Ouais.
Dissonance
avec Dominique et Yves Perrault.
Bonjour Yves et bonjour Dominique Perrault. Vous êtes récemment allé en Palestine. Alors, est-ce qu'on peut qualifier ce séjour de voyage ?
C'était pas du tourisme pour voir les plages et les restaurants de Tel Aviv, c'était pour aller à la rencontre des Palestiniens. Dans le cadre du CCFD, qui avait organisé donc pendant 15 jours assez intensifs des rencontres avec des gens de la société civile, religieuse, politique, associative. C'était pour nous une découverte, même si sur l'image qu'on s'en faisait était déjà pour nous paraissait clair, ça n'a fait que hélas confirmer beaucoup d'idées qu'on avait sur la situation.
Et quelles étaient les idées que vous aviez sur la situation avant d'y aller, Dominique?
L'idée d'un conflit qui durait, qui n'en finissait pas et dont on ne comprenait pas de l'extérieur les tenants et les aboutissants. Et je crois que ce séjour et les lectures, parce que c'était important de lire ce que les uns et les autres avaient écrit sur le sujet, et ceci depuis fort longtemps, pour arriver à essayer de, pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passait. Et là, ce qui saute aux yeux quand on arrive en Palestine et qu'on écoute les Palestiniens, c'est le rétrécissement du territoire. Parce que la première chose que nous montrent les Palestiniens, c'est des cartes. Et là, on voit que la Palestine s'est rétrécie comme peau de chagrin et est devenue des îlots entre lesquels il est compliqué, très très compliqué de se déplacer pour les Palestiniens, et puis l'isolement total de la bande de Gaza, où les gens sont finalement en prison, tout simplement. Et ça, ça permet, ce séjour a permis de bien saisir cette, pour moi, de bien saisir cette dimension.
Donc ce séjour, c'est en quelle année?
Ça fait 3 ans, donc du 20 septembre au 15 octobre 2016. Quelque chose comme ça. Nous, ce qu'on avait perçu à cette époque-là, c'était une note d'espoir avec une société civile qui était en train de s'organiser et un gros conflit entre les deux partis politiques essentiels palestiniens et une critique très profonde du Hamas. C'était quelque chose de très, très fort, voilà. Et nous, on a entendu à l'époque une note d'espoir, puis après, il y a eu l'élection de Donald Trump. Et là, c'était la catastrophe. On a suivi les informations régulièrement, parce qu'on va souvent sur Palestine Monitor, par exemple, ou sur Stop the Wall, qui sont des sites qui sont tenus par la société civile et des politiques palestiniens. Et là, on voit que ça continue, voire ça s'aggrave, et on voit des expulsions de Palestiniens, on voit tout ce qui s'est passé à Gaza, là, depuis, toutes ces marches du vendredi qui continuent et qui ont été réprimées sauvagement à chaque fois. Il y a des morts.
Est-ce qu'on peut en dire un petit mot sur ces marches du vendredi?
Voilà, donc c'est la célébration de ce que le peuple palestinien appelle la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, c'est-à-dire l'envahissement de la Palestine par Israël et la reconnaissance par l'ONU de ce fait que c'est un territoire israélien et le peuple palestinien disparaît. Donc le peuple de Gaza a décidé tous les vendredis de manifester, à part puisque 2017 c'était le 70e anniversaire, donc à partir de là a démarré tous les vendredis cette marche des gens de Gaza, et là ça a été réprimé sauvagement par les Israéliens, et surtout on a tué des civils, on a tué des infirmiers, on a tué des enfants. Et ça n'a pas pour autant découragé le peuple palestinien, puisqu'il continue ses marches. Voilà.
Donc vous arrivez à Tel Aviv. Comment débute ce séjour ?
On était hébergés chez des expatriés français qui travaillaient sur l'ambassade de France à Tel Aviv, hein, c'est ça. Et donc ces gens étaient là depuis à peine 6 mois. On n'a pas un pied dans la maison que la petite fille de 8 ans nous dit, vous savez, s'il y a une attaque, il faut aller à la cave. Et elle ouvre la porte de l'appartement et elle nous montre l'escalier pour descendre à la cave. Et là, moi, j'étais interloquée. Donc ça veut dire qu'à l'école, donc à Tel Aviv, en territoire israélien, on a déjà préparé les enfants à ce qu'il y a des attaques, que c'est dangereux, qu'il y a un ennemi tout de suite. Là, voilà.
Et après, vous partez sur la Cisjordanie, c'est ça ?
Après, on part sur Jérusalem. Et là, ben, bon, à travers le voyage, on est sur une quatre voies, rien que de plus banal. On arrive à Jérusalem, bon, ben voilà, la ville sainte, avec notre guide nous raconte un petit peu. Alors, le mont des Oliviers, etc., etc. Et là, bon, on se rend compte de rien et on comprend pourquoi les pèlerins ne voient rien. Parce qu'on est conduit par le bus dans un centre d'hébergement catholique, où on est chaleureusement accueilli, où on est très bien, un parc magnifique, enfin, voilà. Là, il ne se passe rien. Dans cette partie de Jérusalem, voilà. Puis après, on verra.
Justement, est-ce que vous avez rencontré des Israéliens et est-ce que vous leur avez posé des questions sur la Palestine ?
Alors, on a rencontré justement à Jérusalem deux militants qui luttent, un Palestinien et une Israélienne, qui justement militent pour le rapprochement des peuples et qui ont dépassé cet antagoniste. Il faut savoir que même les Israéliens qui ont l'outrecuidance de fréquenter les Palestiniens ont de grandes difficultés lors du service militaire. Sont même, quand ils sont militants, je crois, hein, plus ou moins...
Il y a des jeunes israéliens qui refusent de faire le service militaire, parce que le service militaire est obligatoire, et que c'est 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles. Et nous, les jeunes que nous avons rencontrés, donc c'était à Jaffa, c'était pas tout à fait à Jérusalem, mais peu importe. Ouais. Donc c'est une association qui essaie... que les jeunes connaissent leurs histoires réciproques et que les jeunes palestiniens puissent raconter leur histoire et que les jeunes israéliens puissent raconter leur histoire. Et cette jeune femme disait, mais moi, avant d'être dans l'association, je ne savais pas ce qui s'était passé. Moi, on m'a dit que le peuple israélien était là depuis toujours et puis c'est tout. Et elle a compris au fur et à mesure des échanges avec les jeunes palestiniens de l'association que c'était pas tout à fait comme ça que ça s'était passé. Et cette association travaille auprès des enfants, dans les collèges, les lycées, et est régulièrement inquiétée parce qu'elle raconte une autre histoire.
Il faut dire que l'école les sépare. Les petits Palestiniens et les Israéliens grandissent dans des écoles séparées, donc on raconte une histoire. L'histoire est toujours une reformulation. On leur raconte une histoire aux jeunes Israéliens qui la reformule. Donc, on se retrouve avec des jeunes militaires qui sont en peur panique. On les a vus au checkpoint, ils sont terrorisés. Donc, le résultat, c'est qu'il y a des mômes qui se font tirer à la mitrailleuse parce qu'ils sortent le téléphone portable de leur poche. C'est presque un état de psychose quand on regarde bien. Hein, parce que les jeunes israéliens sont pas plus mauvais que n'importe quel citoyen de la Terre. Je crois que c'est ça qu'il faut bien dire. Hein. C'est une question de politique, c'est une question de nos politiques qui organisent ça. Mais le peuple, lui, simplement qu'il est dans la méconnaissance. Comme en France, on nous parle pas du rôle de la France avec Daesh et tout ça. En Syrie, il y a des omerta. Donc, on vit dans un monde réinventé, mais qui n'est pas... Et quand ils découvrent le monde réel, effectivement, là, ça devient non seulement très dur, mais je dirais, c'est éminemment subversif. Voilà, la réalité est subversive pour les politiques. Donc il faut empêcher qu'elle apparaisse.
Le ciel est sombre et la lumière est masquée par la poussière. Dehors, les gens espèrent qu'il ne s'agisse que du tonnerre. En un éclair et une seconde, la vie d'une femme y basculera. 60 ans, le même constat de la situation de Gaza. C'est l'histoire d'une terre et d'un conflit qui s'éternise. Israël et Palestine, les années passent et se ternissent. Les temps n'ont pas changé, les choses ont même empiré. On ne compte plus les innocents et toutes les dépouilles empilées. Pas besoin de faire dans le corps en diffusant les corps des morts. J'ai choisi la parole face au silence, elle sera d'or. J'avoue, je suis pas bien vieux et y a beaucoup de choses qui m'échappent. Mais je peux pas en croire mes yeux quand je vois les images de ces frappes. Sommes-nous des animaux pour nous comporter comme des chiens? Œil pour œil, loi du talion, aveugle comme l'étoile du matin. On parle de guerre, mais les chars sont combattus par les pierres. Les F-16 et leurs charges ont pour adversaire les prières. J'évoque pas l'équité car dans une guerre c'est le néant. Là les chiffres relatés sont de l'ordre de 3 pour 1500. Les ripostes d'Israël sont totalement à la ramasse. Et les civils paient la guéguerre qu'elle se livra avec le Hamas. Les frappes chirurgicales ont déjà pris du plomb dans l'œil. Comment un homme peut vivre en paix avec un obus sur son seuil? Les rafales et les flammes sont en train de détruire Gaza. Et face à ça, le monde observe sans même bouger le petit doigt. La colombe de la paix a migré depuis longtemps. Phrase classique, tu me diras, mais peut-il en être autrement? Mon texte ne changera rien, c'est une poussière à l'édifice. Et si tout le monde y met du sien, on arrêtera les sacrifices. C'est un cri, un SOS pour les enfants de Palestine. Pour les familles qu'on met en pièces, pour qui le monde n'a pas d'estime. Les bâtons et les pierres n'ont jamais fait taire la poudre. Le monde y voit une guerre, c'est le pot de terre contre la foudre. C'est un cri, un SOS pour les enfants de Palestine. Pour les familles qu'on met en pièces, pour qui le monde n'a pas d'estime. Les bâtons et les pierres n'ont jamais fait taire la poudre. Le monde y voit une guerre, c'est le pot de terre contre la foudre. Les peuples dans les rues ont manifesté leur soutien. Malgré ça, l'impact est faible, comme si personne ne voyait rien. Les gouvernements se taisent, au mieux et au pire ils dérapent. Hollande qui soutient Israël au lendemain d'un massacre. Bien sûr, on se rattrape dans les 24 heures qui suivent. C'est à croire que quelque chose d'invisible tyrannise. Je parle pas des journaux, des radios et des médias. Les réseaux sociaux apportent plus de concret que leur blabla. Les unes du 20h présentent un conflit partagé. Je veux bien que les doigts sur la détente soient pressés des deux côtés. Mais les militaires choisissent quand les civils subissent. Bordel, il serait vraiment temps que le monde entier s'unisse. La mort n'a pas d'échelle et les conflits pas de classement. Les pertes autant dramatiques que séismes et ouragans. Si tout continue comme ça et que personne prend la parole, alors les choses empireront et feront déborder le bol. Nous sommes sur un champ de mine qui attend jusque tout craque. Sans venir les amalgames qui mettent les juifs dans le même sac. Un peuple ne se juge pas sur les erreurs de son état. Où le monde ne connaîtrait pas Malcolm X et Mandela. Israël est coupable et doit répondre de crimes de guerre. Mais faut croire qu'à notre époque chacun préserve ses affaires. La face cachée du monde et des pouvoirs qui dominent. Alors prions à chaque seconde pour les victimes en Palestine.
Dissonance
avec Dominique et Yves Perrault.
Ensuite, vous rentrez en Cisjordanie. Est-ce qu'il y a eu des rencontres marquantes?
Toutes les rencontres étaient marquantes parce que chaque histoire est singulière. Donc, elle est extrêmement touchante. Et en même temps, quand on écoute les différents témoignages, il y a une grande convergence entre tous les témoignages. Parce que c'est chaque fois la Nakba, c'est chaque fois la spoliation des territoires, c'est chaque fois l'effacement de l'histoire, c'est chaque fois les humiliations au checkpoint, c'est chaque fois les fouilles au corps, c'est à chaque fois le mépris, c'est la peur pour les Palestiniens.
Une des histoires qui viennent de manière récurrente, tu parlais des checkpoints, c'est pas que l'humiliation. Par exemple, quelqu'un qui va à l'hôpital en urgence, une femme enceinte, elle va faire la queue des heures. Le nombre de femmes qui ont perdu leur enfant, qui ont fait des fausses couches dans les queues de checkpoint parce qu'elles pouvaient pas passer, c'est une histoire qu'on a entendue multe fois. Ou des enfants blessés qui sont morts parce qu'ils ont dû faire la queue. Et la queue au checkpoint, c'est des heures. Donc, c'est pas que l'humiliation, c'est aussi la mort, des fois. Hein.
Est-ce que cette peur, cette humiliation, vous y avez été confronté?
Nous, personnellement, non. Et c'est ça qui est choquant. Parce que quand on se promène en tant que Français, on ne vous demande rien. Et on s'est retrouvés, nous, sur un checkpoint avec des Palestiniens. Nous n'avons pas été inquiétés. Et les Palestiniens ont été inquiétés. Ils ont dû fournir leur passeport, on les a retenus, on les a questionnés, alors qu'ils étaient simplement nos guides. Et à nous, on ne nous a rien demandé. Et on a passé un checkpoint à Bethléem. Et donc, on s'est retrouvés dans le colimaçon du checkpoint, dans ces espèces de couloirs où on ne peut plus reculer, on est obligé d'avancer. Et nous avions la consigne de nous taire, de ne pas prendre de photos, de ne pas nous faire remarquer. Mais quand nous avons montré nos papiers, nous sommes passés sans aucun problème, alors que les Palestiniens, certains, étaient, on leur demandait d'attendre. Voilà. Et nous, on est passé à un moment de la journée où c'était relativement paisible. Il n'y avait pas de monde, donc ça a demandé peut-être 20 minutes de passer le checkpoint. Mais quand ce sont les travailleurs qui passent le matin, ils arrivent à 3 heures du matin pour pouvoir être au travail à 7 heures ou à 8 heures. Donc ce sont des heures et des heures et des heures d'attente tous les jours, matin et soir, pour les adultes comme pour les enfants. Ça peut être aussi pour les enfants qui vont à l'école. Ils sont fouillés et il y a des tas de choses qui ne peuvent pas passer. Et moi, je me rappelle dans la périphérie de Jérusalem, une institutrice qui dit, voilà, mes élèves avaient besoin de cartables. Et bien, pour faire passer des cartables, il a fallu demander une autorisation pour que les cartables puissent passer. Dans le village, on voulait être autonome, donc on a demandé à amener des ruches, des poules et à planter des arbres. Et bien, ça a été refusé. Donc là, ben, c'est passé clandestinement, mais au risque et péril des gens qui amènent toutes ces choses. Et quand on réfléchit, on se dit, mais c'est pas grand-chose, des poules et des ruches.
Et la réaction des Palestiniens face à ces humiliations, et bien plus, comment vous l'analysez ? C'est de la patience ? C'est de la résignation ? C'est de l'espoir qu'un jour, il y aura un monde meilleur.
Ah, ils sont impressionnants. Ils sont très, très impressionnants. D'abord, on n'a jamais eu de discours de haine. Pourtant, on pourrait penser que ça serait presque justifié. Il y a beaucoup de distance. Il y a même de l'humour vis-à-vis de ça. Ils sont impressionnants. Et
ils ont une grande dignité.
Il y a une grande dignité. Il y a une espèce de recul vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. Le Hamas, nous, on a compris que le Hamas, dans tout ce qu'on a entendu, était assez discrédité. Et tout ce qu'ils veulent, toutes les solutions à deux États, tout ça,
pour eux,
ils veulent simplement l'égalité des droits. Ils veulent vivre. Ils veulent pas vivre dans un État. Ils veulent vivre dans un État où tout le monde est reconnu et a les mêmes droits, tout simplement. La solution à deux États est pour beaucoup, et même pour beaucoup d'observateurs extérieurs quand on lit la presse, un moyen de ne jamais y arriver. Et c'est à partir du moment où plus, de toute manière, le territoire se rétrécit et se morcelle, c'est évident que deux États, ça devient improbable. C'est juste un truc qu'on nous sert pour retarder, faire en sorte qu'il n'y ait jamais de solution, le temps de réduire à néant ce qui reste petit à petit des terres et du peuple palestinien. En fait, on s'aperçoit qu'on est de l'extérieur, que le but c'est de rendre la vie impossible. On n'a pas encore parlé de la guerre de l'eau là, mais la guerre de l'eau c'est quand même... Il y a deux stratégies qui sont très efficaces. Il y a la guerre de l'eau, il faut savoir que pour entretenir ou faire un puits, il faut l'autorisation de l'armée, qu'on n'a jamais, qu'ils détruisent tous les puits qu'ils peuvent, les Israéliens, et que même quand il y a de l'eau souterraine, parce qu'il y a de l'eau en abondance dans les nappes phréatiques, les Israéliens pompent le plus d'eau possible pour que ça s'amenuise du côté palestinien. À Qalqilia, c'est un exemple vraiment, vraiment significatif. Et à leur pire, ils ont le mur qui ne suit pas du tout la ligne originelle qui avait été voté à l'ONU, fait des contorsions pour isoler les villages, pour qu'aucune circulation ne puisse se faire. Après, dans les villes, il y a une espèce de jeu de go qui se met en place, où il y a régulièrement des maisons de militants israéliens qui commencent à s'installer dans les quartiers palestiniens. Donc ça peut, ensuite ils se disent victimes, nanana. Donc il y a des ministres qui viennent et on est parti dans un enchaînement terrible.
À Jérusalem, voilà. Par exemple, il y a dans le quartier palestinien, dans le quartier musulman, il y a des Israéliens qui achètent des immeubles et qui mettent le drapeau israélien avec des milices privées. Ça, c'est une chose. Donc, c'est l'infiltration des territoires. Il y a, par exemple, à Saint-Jean-d'Acre, l'interdiction formelle pour les Palestiniens de faire des travaux dans leurs maisons. Comme les maisons sont délabrées, eh bien, les gens sont sommés de partir au prétexte que ça devient dangereux, et ils sont pas relogés ou relogés en périphérie, et puis ils sont plus chez eux. Et puis, il y a aussi des constructions. Bon, les Palestiniens, il faut bien que la population grandisse, ils ont besoin de nouvelles maisons, donc ils construisent. Mais comme ils n'ont jamais les autorisations, ils construisent quand même. Donc il y a les démolitions des maisons. Et à 2h, 3h du matin, les bulldozers arrivent et ils détruisent les maisons. Et ensuite, ils demandent aux Palestiniens de payer les frais de destruction. Et ça, on l'a vu dans plusieurs endroits autour de Bethléem, on l'a vu à Jérusalem. Voilà, c'est très très courant. Et puis aussi, on chasse les Bédouins de leur village. Et ça, on a été chez les Bédouins là, dans la vallée du Jourdain. Et donc, ils sont cernés en fait. Et on les prive d'eau, donc ce que disait Yves. Puis ensuite, on détruit leur bétail, c'est-à-dire qu'on détruit les abris du bétail. Donc ben, l'hiver, les bêtes meurent de froid et l'été, elles meurent de chaud. Et ces familles de Bédouins qui avaient 300, 400 moutons se retrouvent avec 50 moutons et l'impossibilité de faire vivre leur famille, et l'impossibilité après de sortir, puisqu'on détruit les routes qui conduisent dans leur domaine. Et c'est d'autant plus révoltant que ce sont des terres qui appartiennent depuis toujours aux Palestiniens, et que ce sont les Palestiniens ont les papiers qui attestent de leur propriété de ces terrains, mais voilà, c'est situé en zone C, et donc, puisque c'est situé en zone C, c'est les prérogatives militaires israéliennes qui décident, et les Bédouins sont régulièrement expulsés. Il y en a qui sont coincés, c'est dans la banlieue de Jérusalem, là, ils sont coincés entre le mur et la quatre voies. Et on se demande même comment ils arrivent à survivre.
C'est quoi la zone A, la zone B, la zone C?
Alors, la zone A, c'est une zone qui est administration palestinienne. Ça veut dire que c'est souvent les grandes villes de Cisjordanie, donc sont sous-gérées par les Palestiniens. Ensuite, la zone B, c'est une zone mixte co-gérée par les Palestiniens et les Israéliens, ce qui amène énormément de conflits et de flous parce qu'on ne sait jamais qui fait quoi. Et puis la zone C, qui sont des zones militaires sous administration militaire israélienne, qui sont des territoires palestiniens sous administration militaire israélienne et où là, l'armée fait ce qu'elle veut. On est allé donc à la Tente des Nations, là, à côté de Bethléem. Et donc Daoud et Amar nous ont raconté leur périple. C'est une famille de Palestiniens qui a propriété reconnue avec les papiers, etc.
Depuis l'Empire ottoman.
Et malgré ce, régulièrement, eh bien, l'armée, puisqu'ils sont en zone A, vient arracher les oliviers, vient couper les fruitiers, vient saccager...
Barre les routes.
Et là, quand on y est passé, nous, ils étaient en train de construire une colonie juste à côté, et une école tamuldique, et ils étaient en train de couper la route. Et on a dû s'arrêter en bus et terminer à pied, parce qu'on ne peut plus aller jusqu'à la Tente des Nations en bus maintenant. La route est coupée, il y a des énormes cailloux qui bloquent la route.
لازم كلنا شعبنا يتوحد عشان نقاوم عشان تحرير فلسطين عشان تحرير الأسرى.
عيناك الزرقاء منارة، وطن يحضن كل حضارة، وحدت القاسية والثاني، أشعلت في القلب شرارة، وجبينك عال في القمة يشحذ فينا كل الهمة، أشعلت نورا في العتمة، ويداك رغم نومتها اهتز العالم لبطولتها، ردت للغاصب صفعته، عادت للأمة هيبتها.
Dissonance
avec Dominique et Yves Perrault.
Comment perçoivent les Palestiniens ces groupes de gens européens ou américains qui viennent les voir, qui viennent les questionner?
Leur message est assez clair. Les gouvernements ne font rien, ne font et ne feront rien. Ils n'espèrent strictement rien venant des gouvernements américains. Les gouvernements européens sont totalement inféodés, ils n'espèrent rien du tout. Pourtant, ils attendent tout des sociétés civiles américaines et européennes. Donc, ils sont. C'est pour ça qu'on est aussi accueillis de la manière dont on est accueillis. Ils comptent, et ça, c'était redit, c'était réaffirmé. Témoigner, dites ce que l'on vit. Ils savent que c'est la pression civile qui peut faire bouger les choses, comme le BDS, boycott des investissements sanctions, vise à boycotter les produits israéliens, surtout quand on sait que beaucoup de produits israéliens sont des produits volés aux Palestiniens. Des investissements veut dire faire pression sur les gros investisseurs occidentaux pour qu'ils arrêtent de construire et d'investir en Israël. Et sanctions, c'est les sanctions internationales et surtout la mise en application, parce que l'ONU passe son temps à dénoncer et à dire telle ou telle chose est illégale, mais l'ONU ne vaut plus grand-chose maintenant, hein. Le droit international est bafoué de manière permanente, donc ils savent que... Ils savent, depuis 70 ans, il ne se passe strictement rien. Donc voilà, le BDS. Alors, faut savoir quand même que le BDS a eu un impact énorme. Il y a des tas de grands projets, notamment de téléphonie, de métro, qui ont été arrêtés suite à ça. C'est certainement une des choses qui fait extrêmement peur au gouvernement israélien, au point que il a mis beaucoup d'efforts ces deux dernières années au niveau de l'armée, des services secrets et tout ça, pour essayer de noyauter. Tous les dirigeants et les gens un peu investis dans le BDS sont refoulés quand ils arrivent à l'aéroport de Tel Aviv à l'heure actuelle.
Le BDS, c'est une campagne de boycott internationale.
Oui, c'est ça. Tout à fait.
Est-ce que vous avez rencontré des jeunes de 15 ans, des étudiants?
Oui, à l'université de Naplouse, avec une soif de savoir et une soif de connaissances extraordinaires, et des jeunes pour qui, en fait, l'éducation, elle est fondamentale pour arriver à se positionner dans cette lutte et pour arriver à s'organiser et à comprendre ce qui se passe. Et on a rencontré des étudiants en première et deuxième année à l'université de Naplouse, qui étudiaient le français, avec une motivation incroyable et une fraîcheur aussi incroyable. Et ils sont inquiétés eux aussi par les checkpoints, mais ils ont décidé d'habiter sur place à Naplouse plutôt que de faire les trajets, puisque c'est trop compliqué pour eux. Ils s'entassent à 5 ou 6 dans des chambres minuscules parce qu'il n'y a pas de place, parce que c'est très cher. Et du coup, ils partagent les frais. Et les familles se saignent aux quatre veines pour payer les études à leurs enfants. Et la population palestinienne est très, très, très éduquée, très instruite. Et il y a 13 universités, je crois, en Cisjordanie. C'est quand même un tout petit pays. Il y a 5 millions de Palestiniens et il y a 13 universités. Et tous les jeunes vont quelques années à l'université. Et nous, tous les gens de la société civile, les chauffeurs de bus, les guides, ils avaient tous un niveau universitaire.
Donc on est loin de l'image du jeune Palestinien qui prend sa mitraillette.
Ah, complètement. Et puis je crois que si, enfin, il ne lance que des cailloux. Et en face, on a des roquettes, on a des fusils mitrailleurs. Tous les gens qu'on a rencontrés, ils sont dans la résistance non violente. Alors, toujours pareil, on a rencontré, nous, une vingtaine de groupes différents. Yves le disait tout à l'heure, hein, des associations, des gens, des politiques, des religieux, des gens de la société civile. Et ils sont tous dans une lutte non violente, une revendication de l'application des mêmes droits pour tous. Et on n'a pas rencontré de gens qui étaient dans la lutte armée. Voilà. Ça fait partie des limites de notre voyage, de nos rencontres.
Oui, puis je crois que la lutte armée, pour l'instant, elle est surtout sur Gaza, plus dans les territoires de Cisjordanie. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. And we'll walk hand in hand. We'll walk in hand, we'll walk hand in hand one day. Deep in my heart, I do believe that we'll work. One day. And we'll break down the prison walls. We will tear down those prison walls. Together we will tear down the prison walls on that day.
Avec Dominique et Yves Perrault.
La place de la religion dans le monde palestinien.
Alors, c'est peut-être le moment d'amener un peu la diversité de la population palestinienne. Il y a des Palestiniens musulmans, il y a des Palestiniens chrétiens. Dans les chrétiens, il y a des Palestiniens catholiques, il y a des Palestiniens...
des orthodoxes.
Il y a beaucoup d'orthodoxes. Il y a des laïcs, il y a des athées. Dans les Palestiniens, il y a des Palestiniens qui ont la nationalité israélienne. Enfin, tout ça amène à des différences de positionnement, des différences de vie qui sont multiples. Donc, également, vouloir assimiler le Palestinien à un musulman fanatique et armé, c'est tellement... Enfin, à la fois, c'est tellement con qu'on se demande comment ça marche, et en même temps, ça sert bien la propagande, puisque c'est cette image-là qu'on véhicule.
Et puis nous, on a rencontré, moi, je pense à nos guides et nos chauffeurs, qui étaient musulmans, mais... Ben, qui étaient très, très fâchés de voir l'extrémisme religieux. Pour eux, oui, il y a une religion, ils sont musulmans, il y a une pratique religieuse qui est intime, et qui ne se dévoile pas sur la place publique. Et pour eux, c'est une affaire personnelle. Ça a été très clairement dit.
Comme les catholiques en France, il n'y a pas que les Monseigneur Lefebvre. Enfin, c'est minoritaire. Sauf que ces gouvernants ont intérêt à ce que tout ce qui est religieux se radicalise, puisque ça va permettre de les stigmatiser. et de les montrer comme ennemis. On est dans des stratégies d'une perversité absolument effroyable. Mais il n'y a pas qu'Israël. J'ai l'impression qu'on vit la même chose en France également.
Et la place des femmes dans le monde palestinien ?
Alors, je dirais qu'elles ont leur place, qu'elles ont mis sur pied des associations, qu'elles luttent bec et ongle aussi pour la liberté et pour l'égalité des droits. Et on a rencontré autant de femmes que d'hommes, tout aussi impliquées, investies.
Je vais aller un peu plus loin, je vais sortir de la Palestine. On est allé en Amérique du Sud, on est allé dans quand même pas mal de pays en difficulté. Et partout, les femmes jouent un rôle primordial dans la réinstauration et le maintien d'une économie locale. Israël est simplement comme tous ces pays. Les femmes jouent un rôle primordial et qu'on ne vienne pas me dire que la religion, là, dans ces endroits-là, empêche les femmes d'exister. C'est totalement faux.
À l'université, il y avait autant de filles que de garçons. Oui. Et dans les associations aussi, elles étaient à l'initiative d'associations, elles étaient à l'initiative aussi de mouvements militants, de l'accueil justement des étrangers pour leur expliquer ce qui se passait. Ben, vraiment, moi, j'ai pas vu de différence.
Est-ce que ce séjour en Palestine a changé votre regard sur ce monde palestinien ? Et sur ce conflit ?
J'ai eu, hélas, la confirmation en 10 fois pire de ce que je pensais, de la vision que j'avais. La Palestine est un endroit, effectivement, qui cristallise quand même... tout le monde sait que c'est terrible, enfin, que c'est un nouvel ethnocide, qui est en train de se passer. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le vit et que j'en ai eu la confirmation. C'est mis en place d'un apartheid. Et donc,
on avait écouté le témoignage d'amis aussi qui étaient allés, qui avaient fait ce voyage. Et c'est vrai que ça m'a drôlement secoué ce témoignage, parce qu'effectivement on sait des choses, mais j'allais dire de manière intellectuelle. Et là on s'est dit, mais
il faut aller voir
ce qui se passe. Il faut aller à la rencontre de ce peuple pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Je crois que c'est... Enfin, pour moi, c'était ça, la démarche. J'en ai entendu parler tout le temps, mais finalement, c'est possible d'y aller, alors que, sincèrement, je ne pensais pas que ce soit aussi facile pour un Français d'aller sur ce territoire. Et il s'est avéré que c'était tout simple. Et du coup, c'était important pour moi d'aller voir ce qui se passait. Et du coup... de constater que ce conflit était épouvantable et que malgré cela, la vie continue. Alors que ce qu'on nous dit à la radio, c'est qu'il y a tous les jours des bombes qui explosent. Ça explose, mais pas toujours. Donc les gens, ils vivent là quand même. Et ils vivent au milieu des bombes aussi.
Donc pour les Palestiniens, le seul fait d'exister... Et d'être là-bas, même sans être violent, mais juste d'être, c'est un acte de résistance.
Absolument.
Au quotidien.
Et effectivement, nous, tous les gens qu'on a rencontrés, on n'a jamais entendu de propos haineux, jamais. Simplement, on veut les mêmes droits pour tous.
Est-ce que vous êtes revenu de ce voyage avec de l'espoir pour la Palestine et les Palestiniens ?
Je le dis souvent, je suis individuellement heureux, je suis collectivement désespéré. Mais... je ne sais pas. Alors peut-être qu'il y a quand même quelque chose, mais alors qui sort de la Palestine, je pense que l'échec des pays occidentaux de vouloir asservir tout le Moyen-Orient, et une des pierres était la Syrie, est quand même un grand échec pour Israël. Donc ça, au niveau politique, ça va certainement freiner certaines choses. Mais pour le peuple palestiniens, on voit bien qu'à l'heure actuelle, la machine depuis Trump semble s'emballer. Le transfert de l'ambassade sur Jérusalem, symboliquement, c'est catastrophique. Donc, je sais pas. Vraiment, en lisant beaucoup de choses, je crois que personne ne sait. Personne ne se risquerait à faire le moindre pronostic. Ça, c'est... Alors, par contre, ce qui me semble évoluer, c'est que les gouvernants israéliens, et je dis bien les gouvernants israéliens, sont allés tellement loin que quand même, toute cette espèce d'image démocratique d'État moderne qu'ils ont voulu nous vendre est quand même, je pense, en train de s'effriter et qui risque d'être en grande difficulté. Et peut-être qu'enfin, c'est le peuple israélien, qui lui n'a rien à voir avec ses gouvernants, qui va peut-être pouvoir faire une politique humaine de demain. S'il y a quelque chose à espérer, à mon avis, c'est à ce niveau-là que ça se situera.
Parce que tous les Israéliens ne sont pas d'accord avec la politique de leur gouvernement, c'est un fait. Hein. Et pour reprendre les propos d'un de nos guides, il disait, écoutez, tout est possible puisque le mur de Berlin est tombé.
Merci à Dominique et Yves Perrault. Mais cette émission consacrée au peuple palestinien serait incomplète si la parole n'était donnée aux habitants de Gaza.
Gaza, une ville enfermée mais une ville qui impressionne, de Ziad Medouk. Ce territoire de 41 km de long sur la côte orientale de la mer Méditerranée, d'une largeur de 6 à 12 km et d'une superficie de 365 km², souffre depuis plus de 13 ans d'un blocus israélien mortel. Et pourtant, ces 2 millions d'habitants existent et persistent. Ils vivent. Malgré l'absence de perspectives pour les Palestiniens de Gaza, du fait notamment de la conjoncture actuelle, et malgré le silence complice d'un monde officiel muet, ces Palestiniens donnent à chaque instant une leçon de courage, de volonté et de détermination. Une leçon de vie qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on valorise. Oui, la bande de Gaza est devenue une prison à ciel ouvert, à la situation insupportable et injuste. Cependant, elle impressionne le monde entier par sa résilience, sa capacité à vivre et à exister. Cette population n'a rien et en même temps, elle a tout. À Gaza, il y a la pénurie, mais personne ne meurt de faim. En cette fin 2019, il y a toujours des maisons détruites ou endommagées par les bombardements israéliens et non rebâties du fait de l'interdiction israélienne de faire entrer des matériaux de construction. Pourtant, personne ne dort dans la rue. Les Palestiniens de Gaza souffrent au quotidien, mais ils sont solidaires de leurs compatriotes de Jérusalem et de la Cisjordanie, des territoires de 1948. Ils sont aussi solidaires du reste du monde via les manifestations et des rassemblements quand il y a des attentats, des incendies et autres catastrophes. À Gaza, trois temps forts montrent la vitalité des habitants. La période scolaire, avec des milliers d'élèves sur le chemin de l'école et un taux d'absentéisme très faible. L'été, avec un monde fou sur la plage, seul lieu de détente des Gazaouis. Et les moments de bombardement, lorsque les gens se rassemblent en masse sur le lieu attaqué pour aider les secours, sans craindre un nouveau bombardement possible ou l'explosion d'un missile au même endroit. Gaza la vie. Telle est la réponse de n'importe quel Palestinien de Gaza pour qualifier la résilience de cette population civile qui souffre certes, mais qui vit. Oui, Gaza résiste en toute dignité. Elle sera toujours debout.
Que dois-je dire à Gaza ? Ziad Medouk, poète et écrivain palestinien d'expression française, Gaza-Palestine. Que dois-je dire, Gaza, lorsqu'on réprime ta marche non violente dans le sang, lorsqu'on enferme ton peuple dans une cage, lorsque les snipers d'élite tirent sur ta poitrine nue, lorsque ton droit à manifester pacifiquement est bafoué, lorsque l'obus du char israélien écrase ta branche d'olivier, lorsque les lambeaux de ton drapeau palestinien claquent au sang, lorsqu'on sème la haine face à ta paix, que dois-je te dire? Dois-je te répondre par mon indifférence, mon impuissance, ma faiblesse, mon silence, mon indignation? Que dois-je te raconter, Gaza? La lâcheté de ce monde cruel, le silence infâme de ses instances, l'impunité de ses exactions et ses homicides délibérés, le blocus impitoyable imposé, l'injustice navrante et absolue. Que dois-je dire aux jeunes de Gaza? Que dois-je dire à ces rêves inachevés? Que dois-je dire aux jeunes qui ne connaissent du monde que s'ils que voient sur une carte? Que dois-je dire à l'enfant de Gaza, à l'innocence perdue, à l'enfant oublié, meurtri, crucifié et martyrisé? Que dois-je dire à la mère de Gaza, à son cœur brisé, à cette mère qui voit les cadavres de ses fils s'entasser? Que dois-je dire au poète de Gaza, à sa plume déchirée, à ce poète qui ne parvient plus à cultiver son irréductible espoir? Que dois-je dire aux réfugiés de Gaza, à ce réfugié dont on n'entend pas le cri, à ce réfugié qui attend depuis des décennies avec sa clé de retour? De quoi dois-je me justifier devant elle? Sa vie suspendue dans une prison, son blocus inhumain et criminel, sa colombe blanche assassinée, ses massacres perpétrés à l'infini, le prolongement de son malheur. Me dois-je de mentir à Gaza? Me dois-je de lui dire que la vie s'améliorera, que l'espoir l'emportera, que la justice triomphera, que le soleil reviendra, que sa liberté s'approchera, qu'elle enracinera la paix? Me dois-je de rassurer Gaza en lui disant quelle est la résistance dans la dignité, quel est le jasmin du monde, qu'elle est au cœur des solidaires, quel est élan de vie dans un jardin oublié, quel est un espoir épanoui, quelle est la force tranquille qui résiste, quelle est l'âme généreuse et brillante des innocents? Quel est le garant de l'espérance indéracinable? Quelle est la gardienne de l'esprit révolutionnaire? Me dois-je de calmer sa colère? Me dois-je d'accepter son cri? Me dois-je d'effacer ses larmes? Me dois-je de supporter sa douleur? Me dois-je de la sortir de cet enfer insupportable? Me dois-je de l'aider à survivre, à surmonter ses peines? Me dois-je de sentir Gaza? Mais comment? Comment sauver Gaza? Comment protéger Gaza? Comment défendre Gaza? Comment sentir Gaza? Comment garder Gaza? Et comment libérer Gaza? Comment? Ziad Medouk, Gaza, mai 2018. Récité par Salwa Tahiri, étudiante au département de français de l'université Al-Aqsa.
Le char et l'olivier, un film de Roland Nurier à voir le 26 novembre à 20h30 au cinéma de Millau, un documentaire où habitants, historiens, militants et élus disent leur vision d'un conflit israélo-palestinien, un documentaire fascinant de précision que l'association Larzac Solidarité et le collectif Palestine 12 vous invite à découvrir.
Cette émission est rediffusée sur les antennes de Radio Centrafrique
mercredi 27 novembre
à 8h
et samedi 30 novembre
à 16h. Vous pouvez la télécharger à votre guise en allant sur le site de Radio Centrafrique, page Dissonance. Salut.
Et fraternité.
Je vais vous faire une chanson tirée d'un film qui s'appelle Vengo. Moi, j'ai rajouté un texte en arabe. Ça s'appelle Nasi in Palestina.
Y no tengo
Thank you.